Vous écoutez, on lit pour vous.
L'interdiction des réseaux sociaux recommandés pour les moins de 14 ans. Un texte de Marie-Michèle Sioui paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir. Les enfants ne devraient pas avoir accès aux réseaux sociaux avant 14 ans sans l'accord de leurs parents, a tranché la commission spéciale sur les écrans, qui a déposé jeudi le 29 mai 2025 son rapport final à l'Assemblée nationale. La commission transpartisane accouche, après un an de travaux, de 56 recommandations pour mitiger les effets des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Les membres de la commission prônent l'imposition d'une majorité numérique à 14 ans. Ils s'inspirent des exemples australiens et français, où ces majorités sont respectivement établies à 16 et 15 ans. L'idée, ce n'est pas de bannir les réseaux sociaux, c'est vraiment de mieux les encadrer et d'arriver à une sobriété numérique tout en éduquant les gens, en sensibilisant les jeunes aux effets néfastes, a résumé la présidente de la commission, la députée caquiste Amélie Dionne. Elle a reconnu que l'application d'une telle mesure constitue un « défi ». Mais comme bien d'autres lois au Québec, ça envoie un signal, a ajouté le député solidaire Alexandre Leduc, qui a participé aux travaux. Il a donné l'exemple de l'interdiction de boire de l'alcool avant 18 ans. Si elle n'est pas respectée par tous, elle a à tout le moins le mérite de poser une balise. Un appel aux profs et aux parents. Outre la majorité numérique, la commission demande aux écoles de cesser d'avoir recours aux écrans en guise de récompense pour les élèves, comme le prévoit d'ailleurs la stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans. La Fédération autonome de l'enseignement a bien accueilli le rapport, en soulignant cependant l'importance de bien faire les choses. La commission souhaite par ailleurs que le gouvernement encadre davantage le travail des influenceurs dès que leur contenu rejoint des Québécois. Encore là, ce n'est pas une mince affaire de réglementer sur les grandes plateformes, a reconnu Mme Dionne. Elle souhaite que des experts se penchent sur le dossier. Le rapport interpelle aussi les parents, souvent démunis dans le Far West numérique. Il propose de créer une stratégie nationale d'information pour, entre autres, les inciter à cesser d'accorder du temps d'écran à leurs enfants avant l'heure du coucher, puis dans leur chambre. La commission aimerait aussi que les parents évitent l'utilisation systématique des écrans pour calmer ou distraire les enfants. Elle rappelle aux adultes qu'il vaut mieux montrer l'exemple. Le comportement des parents peut être un prédicteur de temps d'écran chez les jeunes, lit-on dans son rapport. Membre de la commission, le député libéral Enrico Ciccone a raconté avoir demandé à des jeunes lesquels aimeraient faire plus d'activités avec leurs parents. « Ça a été 100% des mains qui ont été levées », a-t-il relaté. Loin des écrans, les enfants doivent cependant avoir des options. Des fois, ça peut être juste d'installer des lumières dans un parc, de rendre accessible un gymnase d'école la fin de semaine pour que les enfants puissent s'amuser, a illustré la présidente Dionne. Un compromis sur le cellulaire. La commission avait déjà déposé, fin avril 2025, un rapport provisoire qui recommandait l'interdiction des téléphones cellulaires à l'école dès la prochaine rentrée scolaire. Le rapport final permet de comprendre que les élus n'étaient pas tous d'accord pour une application si rapide de cette mesure. « Moi, je plaidais qu'il fallait laisser plus de temps aux écoles », a expliqué M. Leduc. Le compromis est venu dans le fait de déposer un rapport provisoire pour que le personnel scolaire ait davantage de temps pour se préparer. Parmi les 56 recommandations de la commission se trouve celle visant à interdire la vente aux mineurs de lots aléatoires payants dans les jeux vidéo. Appelés « loot boxes », ces lots permettent d'acheter des récompenses dont le contenu n'est révélé qu'après l'achat. Ils font partie d'une série de pratiques se rapprochant des mécanismes de jeux de hasard et d'argent, note la commission. La Commission aimerait aussi que le Québec sonne la fin des microtransactions dans les jeux vidéo. J'ai en mémoire, dans une tournée d'une école, un jeune qui nous avait dit qu'il avait dépensé 4 000 $ en 2 ans dans le jeu Fortnite, a souligné M. Leduc. Elle interpelle aussi le ministère de l'Éducation pour que sa surveillance des programmes de sport électronique dans les écoles soit accrue. Elle veut que les intervenants scolaires puissent détecter les problèmes de cyberdépendance. En dépit du rapport, le député Ciccone demeure opposé à ces programmes. « Pour moi, ça ne devrait pas exister dans les écoles et il ne devrait pas y avoir une connotation de sport », a-t-il lancé. Il a néanmoins dit se rallier au consensus de la Commission. « On garde aussi des jeunes à l'école grâce à ces programmes », a-t-il souligné. La Commission s'est heurtée dans ses travaux au refus des géants Meta, propriétaires de Facebook et d'Instagram, et ByteDance, propriétaire de TikTok, à se présenter devant les élus. Les élus libéraux, solidaires et péquistes se sont ralliés à la décision gouvernementale de ne pas les contraindre à témoigner. Au départ, M. Ciccone souhaitait envoyer un message clair qu'au Québec, on ne fait pas n'importe quoi et on va vous avoir à l'œil. Mais là aussi, il s'est rallié au consensus. Ça aurait peut-être été un combat à ne plus finir, a reconnu M. Ciccone. Ça aurait été un gros show de relations publiques, a renchéri Amélie Dionne. C'était l'interdiction des réseaux sociaux recommandés pour les moins de 14 ans, un texte de Marie-Michèle Sioui, paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir.
Montréal, en pièces détachées, un texte de Mario Girard, paru le 31 mai 2025 dans La Presse. Avez-vous visité le Centre des mémoires montréalaises, MEM, depuis son ouverture en octobre 2023? J'y suis allée une première fois et j'en suis ressortie dubitatif. On m'a dit d'y retourner après l'ajout de l'exposition permanente sur Montréal, Parcours. C'est ce que j'ai fait. Toujours dubitatif. Plus proche du centre d'interprétation que du musée classique, le lieu est composé de sections qui nous font découvrir ce qui forge l'identité montréalaise. Des voix nous parlent des balcons et des escaliers, des dépanneurs et du red light. Dans la nouvelle section, des salles entières sont réservées à des projections vidéo, d'autres montrent des objets de l'activité commerciale, boîtes de Dupuis Frères, etc., et des symboles forts, Expo de Montréal, métro, vélo, drapeau de la fierté. On évoque la grande tradition des déménagements du 1er juillet, montage de boîtes de carton. Ne cherchez pas d'artefacts, il n'y en a pas, ou très peu. Cet endroit suit la tendance mondiale des musées qui offre une approche basée sur l'interactivité et l'oralité. Le visiteur découvre l'histoire en se faisant raconter des histoires passivement assis sur un pouf. Les gens issus de la génération Passepartout seront comblés. À quoi bon présenter de vieux objets quand la parole peut faire le travail? Tout cela est beau et divertissant. D'ailleurs, on remarque davantage le travail des concepteurs artistiques que celui des conservateurs. Le problème avec ce côté bebelleux, ce n'est pas qu'il est là, c'est qu'il n'y a que ça. Avons-nous peur à ce point des artefacts pour complètement les éliminer dans les musées d'histoire? Un ami m'a dit l'autre jour, « Moi, il y a longtemps que j'ai rayé de ma liste les musées qui présentent des tessons de bouteilles et des morceaux de poterie. » Je comprends parfaitement ça. Mais n'y a-t-il pas un juste milieu à trouver? L'automne dernier, je suis allée visiter le musée d'histoire de Lyon. Il y a là un parfait équilibre entre la présence d'artefacts et une contemporanéité muséale. Lors de mes deux visites au même, je me suis demandé à qui s'adressait au juste ce musée. Aux Montréalais ou aux touristes? Qu'est-ce qu'un Français, un Américain ou un Chinois peut retenir de sa visite? Le hasard a fait qu'après ma première visite du même, je suis allée au château Ramsay, où on trouve de vieux objets poussiéreux. Conclusion. Si on veut vraiment découvrir Montréal, il faut visiter plusieurs musées. Le musée Pointe-à-Calière, le château Ramsay, le musée McCord-Stewart, la maison Saint-Gabriel, mal située mais qui vaut le détour, le musée de la Chine, le musée des Hospitalières, et le même. Est-ce qu'un touriste a le temps de découvrir Montréal en pièces détachées? J'ai tenté, sans succès, d'avoir le point de vue du même. Je me dis que si on arrive à ce résultat, c'est qu'il y a des raisons valables. Pour tenter de mieux comprendre ce choix, je me suis entretenue avec Raymond Montpetit, expert en muséologie et professeur émérite à l'UQAM. Il m'a ramené à l'évolution des musées d'histoire qui, pendant longtemps, disposaient uniquement d'objets anciens, de tableaux et d'illustrations pour raconter le passé. Plus tard, sont venues la photographie, les enregistrements sonores et les documents visuels. Nous voilà maintenant à l'ère des nouvelles technologies interactives. L'autre chose qui a changé est la notion de patrimoine. En 2003, l'UNESCO a adopté la notion de patrimoine immatériel. De là, l'apparition des technologies qui permettent l'oralité sous toutes ses formes. Bref, ce que le même fait est totalement dans l'air du temps. Mais venons-en au cœur du problème, la pauvreté de nos collections. Compensons-nous le manque d'artefacts par des tableaux explicatifs? Pour avoir des collections, il faut des collectionneurs, dit Raymond Montpetit, et l'Amérique n'est pas très collectionneuse. Les bottes de Jacques Cartier, on ne les a pas. Mais pour moi, la grande question est la suivante. Cet éparpillement des petits musées d'histoire de Montréal nous empêche-t-il d'avoir un grand musée qui porterait solidement cette mission? C'est un grand sujet, répond Raymond Montpetit. Tout le monde rêve de ça, et pas juste à Montréal. Mais cela me semble impensable. Les plus récentes données publiées par l'Institut de la statistique du Québec concernant la fréquentation de nos musées indiquent une chute, moins 12%, du nombre de visiteurs si on les compare à la moyenne pré-pandémique. Les musées d'art, moins 43%, et les musées d'histoire, moins 22%, sont durement touchés. En revanche, les musées de sciences affichent une hausse, plus 15%. Les musées québécois, de même que les lieux d'interprétation et les centres d'exposition, ont de nombreux défis. Dans ce contexte, je me demande à quoi va ressembler le futur Musée national de l'histoire du Québec qui devrait ouvrir ses portes en 2026. Sera-t-il composé d'artefacts? Ou aura-t-il un style techno-bling-bling? Sachant que François Legault voulait utiliser les espaces bleus, à l'origine du concept du futur musée, pour rendre hommage à nos héros et héroïnes, que va-t-on y trouver? Comment allons-nous rendre hommage à Maurice Richard? Je rappelle qu'en 2002, le gouvernement du Québec a autorisé le fédéral à faire l'acquisition des plus beaux objets, 47 au total, ayant appartenu aux Roquettes. Ils sont maintenant conservés au Musée canadien de l'histoire, à Gatineau. Je me souviens à notre devise, d'accord. Mais comment se souvenir et avec quoi? C'était Montréal, en pièces détachées, un texte de Mario Girard, paru le 31 mai 2025 dans la presse.
La fin d'une épopée de 355 ans. Un texte de Marc Tremblay, paru le 5 juin 2025 dans la presse. Le dimanche 1er juin 2025 aura marqué la fin d'une longue et grande épopée, celle de l'Abbé, plus vieille entreprise canadienne disparue à l'âge canonique de 355 ans. J'ai écrit « épopée » car, de la traite des fourrures au commerce électronique, l'Abbé aura vécu bien des soubresauts. Mais surtout, elle aura été un élément fondateur du Canada dans un épisode de notre histoire qui s'est avéré prémonitoire. C'est par dépit que les deux légendaires explorateurs français, Radisson et Desgroseilliers, se sont rabattus sur Londres devant le refus de la Nouvelle-France d'investir dans leur projet de commerce des fourrures à la baie d'Hudson. Charles II, roi d'Angleterre, accorda alors en 1670 une charte à la Compagnie des marchands aventuriers de la baie d'Hudson, à laquelle il donna un droit de commerce sur l'arrière-pays de la Nouvelle-France. Un rappel historique chargé d'ironie quand on pense que cette même entreprise ferme ses portes tout juste après que Charles III a lu un discours du trône historique à Ottawa il y a quelques jours. Je parlais de la fondation de l'Abbé comme d'un acte prémonitoire. Elle symbolisera, au XVIIe siècle, une percée économique inespérée pour l'Angleterre, dans un territoire qui sera quelques années plus tard fièrement disputé entre son roi Guillaume III et la France de Louis XIV, pour se conclure par la défaite des Plaines d'Abraham en 1760, près d'un siècle après la fondation de l'entreprise. Marqueur identitaire. Si la Compagnie de la baie d'Hudson a été un marqueur identitaire du Canada, elle le fut tout autant pour moi que pour de nombreux Québécois. J'ai accueilli sa disparition avec un pincement au cœur, comme celle d'un ami que j'avais récemment retrouvé après l'avoir longtemps perdu de vue. Parmi mes plus lointains souvenirs, j'ai su d'avoir accompagné ma mère chez Morgan, l'enseigne que portait alors le magasin Amiral québécois du Carré Philips, rue Sainte-Catherine, et acheté par l'Abbé au début des années 1960. Dans ma jeunesse, ma famille allait régulièrement magasiner chez l'Abbé au centre-ville ou au centre Rockland, là où ma mère travailla d'ailleurs longtemps comme vendeuse, métier dans lequel elle excellait. Comme beaucoup de clients, nous avions notre précieuse carte de crédit, l'Abbé. Vous y trouviez évidemment tous les vêtements les plus chics, des produits de beauté, des jouets, des électroménagers. Retourner la marchandise était facile. Le magasin de la rue Sainte-Catherine était réputé pour ses vitrines de Noël spectaculaires. Cette magie des grands magasins à rayons est, semble-t-il, révolue. Au milieu des années 1990, mes liens avec le grand détaillant prirent un tournant tout à fait inusité. Employé d'une grande firme de relations publiques montréalaise, je fus appelé à m'occuper des relations médias d'un nouveau client, la bonne vieille Compagnie de la baie d'Hudson. Propriétaire d'un autre poids lourd du commerce de détail, Zellers, elle avait décidé de transférer le siège social montréalais de celui-ci. Dans un paysage économique plutôt morose, ce transfert était à craindre. Mon patron et moi avions rencontré le président, un homme aux manières un peu abruptes. La veille, il avait raccroché au nez d'une journaliste sans souffler mot. Quand nous cherchâmes à déterminer le capital de sympathie de l'Abbé au Canada, il nous répondit ceci : « Nous existons depuis 1660. » Deux jours plus tard, c'est installé dans ce même bureau du président retourné dans son quartier général de Toronto qu'une collègue et moi fîmes la gestion de crise médiatique de la fermeture du siège social de Zellers. Ce fut ardu. Ce n'est jamais facile d'annoncer une rationalisation. On est obligé de rassurer sur les pertes d'emploi, de minimiser les pertes économiques. La galère. 17 ans plus tard, Zeller rendait l'âme, une décennie avant que la plus vieille entreprise canadienne ne sombre elle-même. Je disais plus haut que j'avais renoué avec l'abbé après l'avoir délaissé pendant longtemps. J'y suis retourné quelques fois dans les 2 dernières années. Il n'y avait pas foule. Et j'ai encore fait le même constat que j'avais fait lors de mes rares visites depuis 20 ans. Que l'offre de produits et les prix, surtout, étaient déficients. Des valises au rabais se trouvaient au même prix que le prix courant de grandes chaînes spécialisées dans le même créneau. Les vêtements étaient souvent hors de prix. Obtenir la carte du magasin qui était autrefois la recette de son succès était rendu pénible et compliqué. L'abbé n'avait plus rien de l'entreprise conviviale d'autrefois. Comme plusieurs grands détaillants légendaires, je pense à Sears ou à Eaton, par exemple, l'abbé aura sans doute été victime de son succès passé. Après 3 siècles et demi, l'entreprise qui a vu la Nouvelle-France mourir et le Canada naître n'était plus capable de se réinventer. Des mouvements de plaques tectoniques ont transformé le commerce de détail dans les dernières décennies. Il y a eu d'abord Walmart et les nombreux magasins au rabais. Puis ce fut Amazon et le commerce en ligne, tsunami qui a conduit à la fermeture d'un très grand nombre de détaillants, non seulement ici, mais à travers le monde. Peut-être que l'abbé n'a pas su s'adapter. Il reste qu'elle occupera toujours une place indélébile, non seulement dans l'histoire du commerce de détail canadien, mais aussi de la grande histoire du Canada. C'est une petite partie de notre âme qui meurt avec elle. C'était la fin d'une épopée de 355 ans, un texte de Marc Tremblay paru le 5 juin 2025 dans La Presse.
Accordez-vous une bonne dose de rire. Un texte de Joanne Martin paru le 15 mai 2025 dans Virage. Après un fou rire qui vous a laissé avec une douleur à la mâchoire et au ventre, vous vous exclamez « que ça fait du bien ». Antidépresseur naturel, formidable complément à la médication, le rire permet de retrouver son cœur d'enfant et de traverser les défis de la vie. Se dilater la rate apporte des bienfaits à la fois physiques et psychologiques. Saviez-vous que de rigoler un bon coup agit comme un puissant moteur d'amélioration de la santé? Se dérider pendant 10 à 15 minutes permet non seulement de brûler jusqu'à 40 calories, mais également d'augmenter sa capacité pulmonaire. Le rire constitue en outre un fabuleux allié contre le stress, l'isolement, la douleur, une mauvaise circulation sanguine et un système immunitaire déficient. Plusieurs spécialistes souhaitent lui redonner sa place. Un outil pour dissiper le stress. Le rire, on le désigne même comme étant une méditation dynamique. On ne pense à rien d'autre quand on rit, lance Sylvie Dagenais-Douville, fondatrice de l'Institut du rire, auteure, conférencière et détentrice d'une formation en gérontologie. La période actuelle est difficile pour énormément de gens et lorsqu'on parle d'angoisse ou de stress, on est habituellement dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver. Le rire nous ramène dans le moment présent. Il est désormais établi que de pouffer de rire réduit les niveaux d'hormones de stress comme le cortisol, ce qui contribue à atténuer les tensions ressenties. En même temps, s'esclaffer hausse le taux d'endorphines, des substances liées au plaisir sécrétées par le cerveau. Chaque fois que l'on rit, un cocktail d'hormones bénéfiques pour la santé est produit, procurant une bouffée d'air frais à tout le corps. Le sentiment de bien-être qui en découle peut durer jusqu'à 24 heures. Vecteur de création de relations. Rire seul, c'est bien, mais le faire en agréable compagnie, c'est encore mieux. Il est prouvé que le rire aide à tisser des liens, à évacuer les émotions négatives et à hausser le charisme d'un individu. Pour favoriser la santé physique et mentale des personnes aînées, la création de relations significatives et chaleureuses est primordiale, et le rire peut en être un vecteur. Rigoler en groupe est ainsi bénéfique à tous les égards et devrait être intégré au quotidien. On a l'impression qu'une fois qu'on a partagé un bon rire avec quelqu'un, on a développé une connexion, confirme Mme Dagenais-Douville. En résidence, j'observe très régulièrement des gens qui ne se sont jamais adressés la parole, mais qui vont établir un contact lorsqu'ils prennent part à une session de rire. Celles qui organisent des séances de yoga du rire rappellent que le rire, qu'il soit simulé ou spontané, engendre les mêmes bienfaits sur le corps. Le rire a l'assaut de la douleur. C'est bien connu, un peu d'humour facilite la gestion de la douleur. La poussée d'endorphines générée par un fou rire se diffuse dans tout l'organisme et permet de mieux supporter et même d'ignorer certains bobos. Ça fait presque 18 ans que je suis sur le terrain et j'ai entendu des personnes aînées me confier qu'elles avaient mal aux doigts à cause de l'arthrite. Mais après un atelier de rire, ils avaient pu aller jardiner, rapporte la maître formatrice en yoga du rire. Une circulation sanguine améliorée. Les vaisseaux sanguins sont tapissés d'une très fine couche de tissu appelée endothélium. Quand on éclate de rire, l'endothélium se dilate, rendant possible une circulation accrue du sang dans tout le corps. Le rire a, par ailleurs, pour effet de faire fléchir et d'étirer les muscles et articulations, favorisant ainsi un tonus musculaire sain dans des endroits qui, en général, ne sont pas stimulés par d'autres activités. Les petits teints gris deviennent aussi plus rosés. Un système immunitaire plus efficace. Si le rire entraîne une baisse du niveau des hormones de stress, cette réduction du cortisol et de l'adrénaline se traduit notamment par un fonctionnement plus efficace des cellules du système immunitaire. La défense du corps contre la maladie et l'infection, je la compare à des petits soldats qui vont aller se battre. Si je les garde heureux en riant régulièrement, ils auront le goût de se battre plus fort pour moi, termine la fondatrice de l'Institut du rire. C'était « Accordez-vous une bonne dose de rire », un texte de Joanne Martin paru le 15 mai 2025 dans Virage.